Okay, donc, on prend la Mishnah à la page 24 B4, en bas de la page. On est content de retrouver Julien parmi nous, entre eux et Cracovie. Voilà. Donc, la Mishnah va commencer un nouveau sujet, mais bien entendu, puisqu'on est toujours dans le chapitre de Elum et Tziot, donc on va toujours parler des trouvailles. Dans la précédente Mishnah, on avait parlé des trouvailles qu'on n'a pas l'obligation de rendre. Ça veut dire qu'on avait donné plusieurs cas, que si on avait trouvé des objets qui rentraient dans ces cas, on considère que certainement le propriétaire initial a déjà abandonné son objet, donc on peut garder l'objet sans problème. Là maintenant, on va parler des cas de l'autre côté, des cas que je trouve un objet, mais que la manière comment j'ai trouvé l'objet va me montrer que certainement le propriétaire initial ne l'a pas encore abandonné, et c'est pourquoi j'ai l'obligation, non seulement j'ai pas le droit de le prendre, mais j'ai l'obligation de proclamer, pour le rendre, de proclamer donc dans la rue, de dire qui a perdu un objet, donc avec des simanimes, pour le rendre à son propriétaire initial. Donc voilà ce que nous dit la Mishnah en bas de la page. Ve'elu chayav le'achiz. Voici les trouvailles que chayav le'achiz, non seulement qu'on n'a pas le droit de prendre, mais chayav le'achiz, ça veut dire qu'on a l'obligation de proclamer. Parce qu'il faut savoir que c'est deux mitzvahs différents dans la Torah, hein, comme je l'avais dit il y a quelques semaines. La première mitzvah, c'est que j'ai pas le droit de le prendre. J'ai pas le droit de le prendre, c'est assourd. Ça ne m'appartient pas. Et deuxièmement, j'ai une mitzvah de le proclamer et de le rendre. Alors des fois, hein, ce qu'on verra, c'est que des fois, la Torah peut nous dispenser de la mitzvah de proclamer. Par exemple, si c'est pas mon kavod. C'est pas mon kavod parce que l'objet vraiment est... C'est pas mon kavod de transporter un objet comme ça. Je trouve un objet par terre, je pense que le propriétaire l'a pas abandonné. Mais bon, le propriétaire apparemment il est très pauvre et moi, c'est pas mon kavod de transporter un objet comme ça. Est-ce que j'ai l'obligation de le rendre ou pas? De proclamer ou pas? Ça c'est des fois oui, des fois non. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est deux mitzvot distinctes. Donc, voici les trouvailles qu'on a l'obligation de proclamer. Matza, Perot, Bikli. Comme Rashi explique, pourquoi on a l'obligation de proclamer? Parce que dans ces cas-là, on estime qu'en général, il y a toujours un siman, il y a toujours un signe distinctif sur l'objet. Si une personne a trouvé Perot, des fruits, Bikli, dans un ustensile. Même si moi, quand je vois l'ustensile, je ne vois pas de signe apparent, mais comme la Gemara va expliquer, on estime que dans un ustensile, en général, toujours un propriétaire a un signe, comment il peut reconnaître son objet, son ustensile. C'est comme ça. Je ne parle pas d'un sac plastique. Je parle d'un ustensile, d'un panier, d'un cabas. Même si moi, quand je vois le cabas, je trouve rien, pour moi, il n'y a pas de siman. Mais toujours, on dit que de manière générale, le propriétaire initial, c'est sûr qu'il a un signe, il reconnaît, il y a une tache ici, il y a un trou ici, il y a quelque chose. D'accord ? Toujours on reconnaît. On a ce qu'on appelle, qu'on avait eu quelques semaines, ce qu'on appelle Tviat Ain. Tviat Ain, ça veut dire la reconnaissance visuelle. On reconnaît. Tout de suite, on reconnaît. Bon. Donc, Matza Perot Bikli. Si une personne a trouvé Perot, des fruits Bikli dans un ustensile. Donc, puisque l'ustensile a un siman, donc est-ce que le propriétaire initial l'a abandonné? Non. Parce qu'il se dit, certainement, je vais le retrouver. Ou bien, Kli Kemotcheu. Ou bien, s'il a trouvé un ustensile tel quel, c'est-à-dire un ustensile vide. Je trouve un kaba vide dehors. Un cabas, vide. Un ustensile, ça peut être un cabas, ça peut être beaucoup de... Mais ça veut dire qu'un ustensile que moi, je ne vois pas de siman, mais que la Mishnah estime que certainement, il y a un siman. Ou bien, Marot Bekis. Si j'ai trouvé de l'argent, Bekis, dans un porte-monnaie. Dans un porte-monnaie, ou dans un porte-monnaie. Bon, à l'époque, c'était pas des porte-monnaies comme aujourd'hui, c'est un peu des bourses. Donc, c'est pas des bourses jetables, vous comprenez bien, c'est des bourses... Une personne reconnaît sa bourse. Enfin, une personne reconnaît sa bourse. Donc, si je trouve de l'argent, est-ce que l'argent c'est un siman? L'argent même, est-ce que l'argent est un siman?
Non.
L'argent même, est-ce que c'est un siman? Après, c'est raison qu'on pourrait trouver deux simanim. On pourrait trouver un siman dans le nombre, dans la manière comment c'est. Mais l'argent en soi n'a pas de siman. Non. Les fruits aussi également, ce qu'on a parlé avant des fruits dans un keli, les fruits en eux-mêmes n'ont pas de siman. Donc, la même chose, si j'ai trouvé de l'argent dans un porte-monnaie, dans une bourse. Okiskemotchu, ou bien je trouve une bourse tout court. Une bourse sans rien dedans, mais il y a une bourse qui vaut de l'argent. Tibore perot, ou tibore maot. Ou bien, si je trouve, tibore, ça veut dire donc des tas d'argent. Des tas, hein, putain, ça serait bien qu'on trouve des tas d'argent. D'accord, un tas d'argent, ou bien, donc un tas de fruits. Bon, c'est déjà moins intéressant. Donc un tas d'argent ou un tas de fruits. La Gemara expliquera par la suite, la Gemara expliquera dans la page suivante, elle expliquera quel est le siman qu'il y a dans un tas de fruits. En quoi il y a un siman? C'est un fruit, il n'y a pas de siman. Ça, on expliquera. Encore d'autres exemples avant de nous donner la halakha. Shlosha matbeot, ze al gavze. si je trouve trois pièces posées l'une sur l'autre. Alors pour l'instant c'est un peu ambigu quand on dit l'une sur l'autre. C'est l'une sur l'autre, est-ce que ça veut dire qu'ils sont posés pile l'une sur l'autre? Comment ils sont posés? Quel est le siman ici? Tout ça c'est la Gemara qui nous expliquera. Krichot birshut ayachid. Autre exemple, si on a trouvé krichot, ça veut dire donc des gerbes, d'accord? Donc des gerbes, des petites gerbes, pas des grands tas de gerbes, des petits tas de gerbes, de blé par exemple, birshut ayachid, dans un domaine privé. Alors vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah, hein, au début de l'Umetziot, on avait expliqué que quand on parle ici de domaine privé et domaine public, il ne faut pas comprendre domaine privé et domaine public comme ce qu'on explique dans le Shabbat. Dans le Shabbat, domaine privé et domaine public, domaine privé c'est chez moi, domaine public c'est dehors. Là, domaine privé, domaine public, les deux c'est dehors. Seulement domaine privé c'est un endroit dans lequel il y a une faible affluence, domaine public c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence. Donc si c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, le propriétaire initial a certainement abandonné. Mais là, où je l'ai trouvé, birshut ayachid, ça veut dire dans un endroit qui est à faible affluence. Autre exemple, vekikarot. Donc en fait c'est les antagonistes de ce qu'on a vu dans la première Mishnah. Je ne sais pas si vous ferez la différence après, mais vous verrez que c'est exactement le contraire. Ou vekikarot shel balabait. Si on a trouvé du pain, mais du pain shel balabait, ça veut dire que pas du pain qui est fait par dans le moule d'un boulanger, mais du pain qui est fait chez un particulier. Du pain artisan, donc du pain qui est fait à la maison, fait maison. Et alors, dans le pain qui est fait maison, même si moi je ne reconnais pas Timan, mais la bonne femme qui a fait son pain le reconnaîtra à tous les coups. Connais, elle a un style, chaque personne a un style particulier comment on fait son pain. Vekiz et tsemer al kuchin mi bet aouman. Ainsi que des tontes de laine al kuchin mi bet aouman, qu'on a déjà pris mi bet aouman dans la maison de l'artisan. Parce que donc elles ont déjà été travaillées chez l'artisan. Et l'habitude était qu'une fois que l'artisan a... Donc ça veut dire que ça se passait comme ça. J'avais une vache à la maison, d'accord, enfin dans ma cour, je faisais la tonte, je prenais la laine, d'accord. Maintenant cette laine-là, j'avais pas, il faut quelqu'un qui sache la travailler. Donc on l'amenait chez un ouman. Ce ouman-là, son travail c'était quoi? Son travail c'était, il prenait cette laine-là et il la travaillait. Donc il travaillait en faible quantité, d'accord. Il travaillait en faible quantité, mais il avait beaucoup de clients. Donc le problème qu'on avait c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il avait travaillé la laine, il risquait de mélanger la laine de deux clients à lui. Comment il faisait? Comment on faisait? Ça, c'est très simple. Une fois qu'il avait fini de travailler la laine, il mettait autour de la laine un fil ou quelque chose pour reconnaître, pour dire ça c'est la laine d'un tel. Toujours, on avait un siman particulier. Donc encore une fois, c'est le même principe. Même si moi, celui qui a trouvé, je ne vois pas le siman, mais certainement que le propriétaire initial a son siman. Dernier exemple. Kadé Yaïn et Kadé Shemen, si une personne a trouvé des cruches de vin et des cruches d'huile. D'accord? Donc on avait expliqué dans la Gemara, ça c'est un cas qu'on avait déjà vu dans la Gemara il y a deux pages, dans la page 23b. On avait expliqué que dans les cruches de vin et les cruches d'huile, il y a un signe dans leur bouchon, il y a un signe comment elles sont bouchonnées. Aujourd'hui on a des bouteilles plastiques donc on a du mal à s'imaginer. Il faut comprendre qu'à l'époque c'était pas comme ça. À l'époque c'était en argile et chacun avait sa manière de boucher, etc. Donc on reconnaît. Dans tous ces cas-là, Are Eilu, Chayav le Achiz. Dans tous les cas que je viens de citer, on a l'obligation de proclamer. Donc c'est le contraire, c'est l'antagonisme de ce qu'on a vu dans la première Mishnah du chapitre. C'est des cas dans lesquels, même si moi je ne retrouve pas de siman, même si moi je n'ai pas de siman, mais le propriétaire initial, certainement, a son siman. Bon, jusqu'à présent, c'est assez simple. Non, ça c'était la Mishnah. Non, il y a la Gemara. La Gemara va développer. Alors, on n'aura pas beaucoup de Gemara sur cette Mishnah. On aura à peu près, on aura une page, d'accord, une page de Gemara, enfin une feuille de Gemara, ce qu'on appelle un daf. Donc la Gemara dit comme ça. La Gemara va poser une question très simple. Elle dit, Tama, la raison pour laquelle tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit au début de la Mishnah? Vous rappelez, au début de la Mishnah, on a dit 4 cas, enfin 2 cas qui font 4. C'est quoi les 4 cas qu'on a dit? Premier cas qu'on a dit, c'est s'il a trouvé des fruits dans un ustensile, ou un ustensile tout court. Deuxième cas qu'on a dit, s'il a trouvé de l'argent dans un porte-monnaie, dans une bourse, ou une bourse tout court. Très bien. Alors on dit comme ça. Ta'ama, la Gemara va analyser ces quatre cas que je viens de dire. Ta'ama, la raison pourquoi tu m'as dit que j'ai l'obligation de rendre les fruits et l'argent, c'est parce que de matza, perot, bakli, ou maot, bakis. Si j'analyse la Mishnah, je comprends que pourquoi j'ai l'obligation de rendre ces fruits et cet argent, parce que les fruits et l'argent se trouvaient dans un packaging, ils étaient enveloppés dans une bourse ou dans un ustensile. De là, j'en déduis que, d'accord, A, Kli ou les fanaf ferot. De là, j'en déduirais que si j'ai trouvé un ustensile devant lequel il y avait des fruits, ça veut dire que je trouve un kaba, et devant le kaba, il y a des fruits. Vous avez bien vu, il faut bien faire attention au mot de la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? La Mishnah a dit matza perot bikli. S'il a trouvé des fruits dans un ustensile. Donc moi, j'analyse ce que tu m'as dit, d'accord? Je comprends, d'après ça, ça voudrait dire que si j'ai trouvé un ustensile vide, et devant l'ustensile, j'ai trouvé des fruits.
C'est bon.
Ou bien, deuxième exemple, qui sous les fanav maot, donc dans le cas de l'argent, si j'ai trouvé un porte-monnaie, mais vide, mais devant le porte-monnaie, il y a de l'argent, arrêt ou chez l'eau. J'en déduirais que, alors l'ustensile, est-ce que je peux le prendre?
Non.
Non. L'ustensile, on a dit non. Parce que l'ustensile, il a un siman. Mais l'argent et les fruits, je peux le prendre là. D'accord? Bon. Arrêt ou chez l'eau, donc ça veut dire que je peux le prendre. Ça veut dire quoi? Quel est le dilemme en vérité qu'on aurait ici? Le dilemme qu'on a ici, c'est, il y a des fruits qui se trouvent devant un kaba. Donc, il est fort possible que les fruits sont tombés du kaba. Donc, ils ont été perdus de la même personne. D'un autre côté, peut-être que ça a été perdu de deux personnes différentes. Que le kaba a été perdu par une personne et les fruits ont été perdus par une autre personne. Donc, on ne sait pas. Bon. Alors, on va analyser ça. Là. Dans les quelques minutes qui vont suivre, on va essayer d'analyser, on va voir comment on fait. Mais, si on analyse notre Mishnah, le Mishnah qui a dit qu'on a trouvé un ustensile avec des fruits à l'intérieur, ça voudrait dire que si ce serait un cas que je trouvais un ustensile et devant lui des fruits, mais pas dans l'ustensile même, à Relouchelo, les fruits et l'argent m'appartiendraient. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on part du principe que certainement, les fruits sont tombés d'une autre personne, sont pas tombés de la même personne qui a fait tomber le kaba. Alors dans ce cas-là, on a une question. Pourquoi? Alors d'abord, avant de poser la question, la Gemara va nous dire que, a priori, on aurait même une Mishnah, d'accord, une Braïta, pardon, qui irait dans ce sens, qui approuverait ce qu'on vient de dire. Qui approuverait ce qu'on vient de dire, que la Mishnah ne parlait uniquement dans un cas dans lequel on a trouvé les fruits dans l'ustensile, que là, il faut rendre les fruits et l'ustensile, mais si j'avais trouvé les fruits devant l'ustensile, je rends que l'ustensile sans rendre les fruits. Alors la Gemara, donc, avant de poser une question, la Gemara amène une preuve, elle dit « Tanina Léa de Tanou Rabanan ». On a enseigné, d'accord? En vérité, dans notre Mishnah, on a enseigné quelque chose la manière comment on a expliqué notre Mishnah, comment on a analysé notre Mishnah, en vérité, on le retrouve dans une autre Braïta. C'est enseigné comme ça. Matzakeli, ou les fanaf perot, c'est enseigné que si une personne a trouvé un ustensile et devant lui des fruits. Ah, c'est le cas qu'on vient de poser. D'accord? Donc, un ustensile vide, mais devant cet ustensile, il y a des fruits. Ou bien, kis, ou les fanaf maot, si on a trouvé un porte-monnaie, un portefeuille, où les fanav maot, et devant ce portefeuille, il y a de l'argent. Arre, louchelo, la Braïta dit explicitement, d'accord? La Braïta donc a analysé la Mishnah comme nous, a priori. La Braïta dit que arre et louchelo, ils sont à lui, bien entendu pas l'ustensile. Le fruit et l'argent sont à lui, et il n'a pas l'obligation de proclamer. Puisque déjà on aimait cette Braïta, la Braïta donne un deuxième cas, Miksatan Bikli ou Miksatan Algabe Karka. Si maintenant, je trouve un ustensile par terre, d'accord? Maintenant, je trouve un ustensile avec des fruits devant. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie des fruits qui se trouve dans l'ustensile et une partie des fruits qui est par terre. Là, c'est plus la même chose. Là, est-ce que, d'après vous, là, imaginez-vous la situation. Vous trouvez par terre un tabac avec un peu de fruits à l'intérieur et un peu de fruits dehors. Un peu de fruits à côté. D'après vous, est-ce que le tabac et les fruits ont été perdus de la même personne?
Oui. La probabilité est forte.
Là, la probabilité est très forte. D'accord? Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Miksatan bikli, miksatan algabe karka, si j'ai trouvé une partie des fruits dans l'ustensile et une partie des fruits sur le sol, ou bien, dans le cas de l'argent, miksatan bikli, miksatan algabe karka, une partie de l'argent et des billets qui sont encore dans le portefeuille et des billets qui sont déjà sortis, d'accord? Là, dans ce cas-là, il faut dire que certainement, la probabilité, certainement, c'est de la même personne. Dans ce cas-là, chayav la chriz, on a l'obligation de proclamer. Donc là, c'est intéressant l'analyse qu'a fait la Mishnah, non seulement qu'on a fait une analyse de la Mishnah qui nous montre que si la Mishnah a dit que si la Mishnah a parlé d'un cas qu'on devait rendre, qu'on a dit c'est dans le cas dans lequel on a trouvé les fruits dans l'ustensile, c'est pas pour rien, c'est parce que si les fruits seraient à l'extérieur de l'ustensile, on n'aurait pas l'obligation de les rendre. Non seulement qu'on a fait une analyse de la Mishnah, mais on a montré qu'il y a une Braïta qui a fait la même analyse que nous. Donc a priori, on a tout bon. D'accord? Ça voudrait dire que si je trouve un ustensile vide avec des fruits devant, je prends les fruits et je proclame l'ustensile. Urmin ou? On va poser une question. On va poser une question à Beit HaMidrash, d'accord? A priori, cette analyse n'est pas si simple. On a une autre Braïta qui va nous prouver le contraire. On dit comme ça. Matza davar she'en bo siman. Il y a une autre Braïta qui dit, si une personne a trouvé une chose qui n'a pas de siman. Alors écoutez bien la manière comment c'est formulé, parce que c'est vrai que quand on voit la manière comment c'est formulé, on a l'impression qu'on ne parle pas du même cas, mais en vérité c'est exactement le même cas, c'est le même moteur, exactement le même moteur. Matsa davarch en bo siman. Si une personne a trouvé une chose qui n'a pas de siman, betsad davarch yesh bo siman, à proximité d'une autre chose qui a un siman. Là c'est plus général comme cas. Mais vous comprenez bien que le cas qu'on vient de dire, j'ai trouvé un kaba. Donc est-ce que le kaba a un siman? Lui, les fruits, est-ce qu'ils ont un siman? Non. Donc ça rentre dans cette catégorie, c'est le même moteur. C'est le même, exactement le même moteur. J'ai trouvé un objet qui avait un siman à proximité d'un autre objet qui n'avait pas de siman. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, matza davar she'ein bo siman, betza davar she'yesh bo siman. Si on a trouvé quelque chose qui n'a pas de siman, à proximité de quelque chose qui a un siman, chayav le'achiz. On a l'obligation de proclamer. Proclamer sur quoi? Explique la Gemara, proclamer sur tout, sur l'ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que certainement ils ont été perdus de la même personne. Ils ont été perdus de la même personne. Donc, a priori, c'est le contraire de ce qu'on vient de dire.
Surtout que tout à l'heure, on disait que, a priori, c'était pas obligé que ce soit perdu de la même personne.
Oui. Ouais. Non, justement, on a dit qu'on avait un dilemme et qu'on arrive à la conclusion que certainement ça a perdu la même personne.
Ça pouvait ne pas être perdu.
Et là, a priori, ici, la Braïta qu'on vient d'amener, elle part du principe que certainement ça s'est perdu la même personne.
Donc dès le départ, le principe n'est pas le même.
Dès le départ, le principe n'est pas le même. Continue la Braïta. Ba ba'al siman zenata lechelo. Si maintenant, d'accord, écoutez bien le cas intéressant qu'on pose. Ah bon, on est toujours dans la question, on n'a pas encore répondu à la question, mais on a quand même un petit cas intéressant. Si maintenant, donc moi je proclame, j'ai trouvé un kaba avec des fruits, celui qui me donne le siman du kaba, je lui donne les fruits avec. Il y a quelqu'un qui se présente, d'accord, et qui dit oui, j'ai perdu un kaba, effectivement. Il me donne le siman du kaba, il dit voilà, il y avait un signe ici, tache ici, etc. C'est sûr que ça arrive. Bon, le problème c'est quoi? C'est que je lui dis, monsieur, il y avait des fruits dedans aussi. Il dit, ah non, moi j'ai pas perdu de fruits. Moi, j'ai pas perdu de fruits. Maintenant, a priori, c'est sûr que le kaba est à lui, parce qu'il nous donne les simanim. C'est à lui.
Quelqu'un qui l'a trouvé et qui a mis des fruits là-bas.
Ah, voilà. Donc là monsieur, c'est un bon point, ce qu'il dit. Il dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà trouvé et qui l'a déjà perdu.
Ouais.
J'ai le commentaire, il dit ça. D'accord. Donc on dit comme ça. Dit la Gemara, Bab al-Siman Zenatal Echelo, si maintenant le propriétaire du siman est venu, donc le propriétaire de l'objet sur lequel il y a un siman, il est venu, Venatal et Chelo, et il a repris son objet. Mais il a dit, les fruits sont pas à moi. Qu'est-ce qu'on fait avec les fruits? D'accord. Comme ce qu'a dit monsieur Krakowicz, dans ce cas-là, les commentaires expliquent que peut-être, puisque moi j'ai trouvé le kaba avec des fruits, et que la personne, le propriétaire, me dit que lui n'a pas perdu avec des fruits, ça veut dire certainement c'est pas lui le propriétaire. Bah oui. Certainement, c'est pas lui le propriétaire. Si c'est lui le propriétaire, il aurait dû avoir des fruits. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah, le chidouche de la Braïta, c'est que Zaha ala bedavar shen bo siman. Le chidouche de la Braïta, c'est quoi? C'est que Zaha ala bedavar shen bo siman, ça veut dire que celui qui t'a donné le siman, il prend le kaba, et les fruits, je les garde moi qui a trouvé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit pas comme ce que le chidouche de la Gemara, c'est qu'on dit pas comme ce que M. Krakowicz a dit. On dit que si une personne vient te donner un siman sur un objet, Si c'est clair que ça lui appartient, tu lui rends. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les fruits? Les fruits, je les garde. Très bien. Bon, ça c'était une parenthèse. En tout cas, qu'est-ce qu'on a appris au début de cette braïta? On a appris que si j'ai trouvé un objet qui a un siman à proximité d'un autre objet qui n'a pas de siman, d'accord, à forte proximité, on expliquera après qu'elles sont considérées être à proximité. Combien c'est proximité? Est-ce que c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, c'est quoi proximité? Donc si on a trouvé quelque chose à proximité, qu'est-ce que nous a dit la Braïta? On a l'obligation de proclamer sur l'ensemble, donc le contraire de notre analyse. Vous comprenez, oui? On a analysé notre Mishnah, on a dit que si je trouve un objet qui a un siman à proximité d'un autre objet qui n'a pas de siman, donc le cas des fruits, je trouve un kaba et à côté des fruits, je proclame le kaba et les fruits je les garde directement. Donc, sur la Braïta, on a vu le contraire. On a vu que non, il faut proclamer sur l'ensemble. Donc on aurait une contradiction.
Pourquoi?
Bah, il y a une contradiction, la contradiction est claire là.
Non, c'est évident que non.
Pourquoi c'est évident que non?
Parce que c'est à côté, donc on voit que ça appartient à la même personne.
Mais tu m'as pas posé cette question tout à l'heure quand j'ai fait mon analyse. Tout à l'heure quand j'ai fait l'analyse de la Mishnah, d'accord? Tu m'as pas posé cette question. Tout à l'heure quand j'ai fait l'analyse de la Mishnah, j'ai dit, non, la Mishnah, on a dit, s'il a trouvé des fruits dans un ustensile. Là, je dois proclamer. On l'a dit au début de la Gemara. De là, je comprends que s'il a trouvé un kaba et à côté de ce kaba des fruits, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai pas l'obligation de proclamer. D'accord? Ouais. Donc le contraire de ce que je viens de dire. Donc il y a une contradiction ici, il faut comprendre, il faut expliquer.
Peut-être parce que l'un c'est deux objets différents et l'autre c'est deux objets qui vont ensemble aussi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si tu prends un objet justement de panier avec des fruits, les fruits vont avec le panier. On peut penser que ça, c'est les fruits sans panier, qu'est-ce qu'ils font là tout seuls? Alors que l'autre, il parle de deux objets différents, un panier et à côté peut-être un autre panier d'ailleurs.
Même réponse que tu dis, mais le problème qu'on a, d'accord, c'est une bonne question ce que tu dis. D'ailleurs, il y aura une réponse de la Gemara qui ira un petit peu dans ce sens, pas exactement ça, mais qui ira un peu dans ce sens. Le problème, c'est que la Braïta qu'on a amenée pour poser une question, elle a donné un principe général. Elle a dit si on a trouvé quelque chose qui a un siman à proximité de quelque chose qui n'a pas de siman. Elle n'est pas rentrée dans ce que tu as dit. Toi, tu as dit ce cas-là, on parle que c'est deux objets distincts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Du style, j'ai trouvé un portable à côté d'un kaba. Il n'y a pas de rapport entre un portable et un kaba. C'est pas ça ce qu'a dit l'Oreta. L'Oreta a dit, si j'ai trouvé un objet qui a un siman, à proximité d'un objet qui n'a pas de siman. Donc on est resté dans l'ordre général. C'est pour ça que la Gemara se pose une question.
Deux cas différents. Dans le premier cas, c'est deux choses qui contiennent, et dans l'autre cas, c'est des contenus. Ça n'a rien à voir.
Qui a dit ça? Où c'est écrit ça?
Non, sa tête.
Hein? Encore une fois, la deuxième raïta qu'on a amenée est restée générale. Elle a dit, j'ai trouvé un objet qui a un siman à côté d'un objet qui n'a pas de siman. On n'a parlé ni contenant, ni contenu, on n'a rien parlé.
Oui, mais on a donné un...
Pardon ?
Ça nous choque pas, on sent bien que c'est ça. D'un côté, on parle d'un contenu,
c'est pas
on dirait qu'il y aura plusieurs réponses.
Sur l'autre, surtout, c'est sur l'autre que j'apporte le truc. C'est-à-dire que c'est sur l'autre qu'on voit des fruits et un panier.
Oui.
Il est certain que les fruits sans panier, une quantité de fruits, on se dit que ces fruits-là, le type ne les a pas transportés comme ça. Ils étaient bien quelque part pour qu'ils les transportent, ils étaient peut-être dans ce panier-là. Tu vois, il y a une relation entre l'un et l'autre.
Voilà, c'est facile de dire.
Le problème, c'est que pourquoi tu as la question? Parce que toi, tu t'imagines, quand on dit à proximité, ça veut dire c'est à 20 cm.
Ou un mètre.
On verra après. Mais un mètre, attends, un mètre, ça peut tomber de deux personnes différentes, sans problème.
Ouais, bah oui,
Ouais.
Excusez-moi.
Ça peut tomber, mais c'est ce qu'on a dit d'ailleurs.
En tout cas, j'ai pas l'obligation de rendre. Maintenant, peut-être que s'il y aura... Attention, si je veux faire mieux que le din du style, je veux proclamer le panier et je lui dis, écoutez, j'ai trouvé des fruits à côté, c'est pas à vous, le gars me dire, oui, c'est à moi, d'accord? Là, bien sûr. Mais là, on parle selon la halakha. Qu'est-ce que dit la Gemara analysée? Elle a dit qu'a priori, on n'aura pas l'obligation de rendre. Donc, on a une question. Quand on a une braïta qui nous montre qu'on a l'obligation de rendre l'ensemble, et une braïta qui nous montrerait qu'on a l'obligation de rendre que l'objet qui a un siman, mais l'autre objet qui n'a pas de siman, on n'a pas l'obligation de le rendre. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux braïtas? Et s'il y a contradiction, d'accord, laquelle on doit suivre? Amar Rav Zevid répond, on va avoir plusieurs réponses. La Kashia, il n'y a pas de question. En vérité, on va parler de deux cas différents. Pourquoi, Bekoub avec Itana. La première braïta. De quoi elle parlait? Bekouba Vekitana, ça veut dire quoi, hein? Bekouba Vekitana, ça veut dire qu'on avait une... Comment on traduit ça en français? Kouba, c'est un tonneau.
Un tonneau, il met.
D'accord? Donc,
un tonneau.
Ou un tonnelé? Un tonneau, il traduit?
Non, un tonneau.
Donc, Bekouba Vekitana. De quoi on parle dans la première braïta? On parle d'un tonneau qui est posé par terre. Il y a du lin qui est posé devant. Et alors? Le problème, c'est qu'on sait très bien que le lin ne tombe pas en botte. Ça veut dire que même s'il y a du lin qui tombe, obligatoirement il doit avoir un peu de lin qui reste accroché au panier, au kaba. Obligé, un petit peu au moins. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu du lin en...
Non.
D'accord? Bon, bah vous verrez une fois, vous verrez que c'est le lin.
Merci.
D'accord? Le lin.
C'est comme la laine, ça détouffe et ça reste.
C'est encore plus que la laine. C'est-à-dire le lin, quand tu prends le lin, il suffit même que tu prends du lin dans la main, tu le poses, il te reste un peu de lin dans la main. Je parle du lin en brut. D'accord. Donc, Bekouba Vekitana. On va aller, comme chez Lida, on va aller un petit peu dans le sens de ta réponse. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, ma réponse dit, il n'y a pas de question. La première braïta qui a dit que quand j'ai trouvé l'objet qui a un siman, je dois rendre aussi l'objet qui n'a pas de siman. De quoi on parle? Pardon, je ne dois pas rendre. De quoi on parle? Bekouba Vekitana. On parle qu'il y a deux objets, mais que si vraiment tu me dis que le lin était tombé du kaba, ça aurait dû laisser une trace dans le kaba. Or, dans le kaba, il n'y a pas de trace de lin. Donc là, effectivement, qu'est-ce que je fais avec le lin? Je le garde. Et je proclame le kaba. Mais la deuxième braïta, Betana au piré. Mais la deuxième braïta, de quoi elle parle? Betana au piré. Ça veut dire quoi, Betana au piré? Betana au piré, ça veut dire dans un panier qui est posé par terre. Et il y a des fruits qui sont posés devant. Et que là, et alors? Donc un petit peu comme on l'a dit, que même s'il n'y a pas de fruits qui sont restés dans le panier, Mais le problème qu'on a, c'est qu'une fois que les fruits sont tombés du panier, il n'y a aucun signe distinctif, il n'y a aucune manière de voir dans le panier qu'il y a quelques instants, il y avait un fruit dedans. Il n'y a pas, ça ne laisse pas de trace des fruits. D'accord ?
C'est
pas,
c'est pas juste.
Oui, c'est possible.
Des fruits qui soient très mûrs.
C'est possible, c'est une bonne question. Bon, mais là, on parle d'un fruit normal, un fruit... C'est vrai que là, dans ce cas-là, si le fruit a coulé, on aurait dû...
Oui, puis si le grain de blé, il devrait avoir quelques grains aussi. Puis,
Oui, effectivement, mais là, on a amené l'exemple du lin, c'est pour montrer... Le lin, c'est l'extrême. Parce que le lin, c'est un... même si tu prends du lin dans la main, ça laisse des traces.
Si on trouve des pommes et dans le panier on trouve du cidre, voilà, on peut faire une corrélation entre le cidre et les pommes ou pas.
Non, il a raison, par exemple, si je trouve des pêches par terre, d'accord, des pêches bien juteuses, d'accord, et le panier est sec, même pas une odeur de pêche. Il y a l'odeur aussi, hein, l'odeur ça joue aussi.
C'est pas une preuve ça.
Bien sûr.
C'est pas des pêches qui sont dehors depuis 2-3 jours.
Oui mais d'accord, mais il y a une odeur.
Tu sens les pêches qui sont à côté.
Si elles viennent de tomber, il y a une odeur. Ouais. D'accord. Si par exemple les pêches sentent très fort, je prends le panier, ça sent rien. Ça sent autre chose.
Ça sent le lin.
D'accord. Ça sent le lin.
C'est bien des abusés.
Donc on dit comme ça. Donc ça c'est la première réponse. Réponse de Rav Zavid. Allez. Réponse de Rav Zavid de Beit HaMidrash qui nous dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Il n'y a pas de contradiction. La première braïta parle d'un cas que la première braïta qui a dit que j'ai pas l'obligation de proclamer sur l'ensemble. De quoi elle parle? Elle parle d'un cas que les deux objets n'ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre, et que si vraiment l'objet qui n'a pas de siman proviendrait de l'objet qui a un siman, donc en d'autres termes, si dans notre cas, si le lin proviendrait du panier, le lin aurait dû laisser des traces dans le panier. Alors que le deuxième cas de quoi il parle effectivement d'une corbeille à fruits, d'accord, et là, même si les fruits sont tombés, ça ne laisse pas de traces dans la corbeille. Ça c'est une première réponse. Rafapa va nous proposer une deuxième réponse, pour montrer que les deux braïtot ne sont pas en marloquet. Avea betsana ofiré. Je vais te répondre que les deux braïtot parlent d'une corbeille à fruits. Ah, c'est quoi la différence? Alors, pourquoi il a dit blanc, l'autre il a dit noir? Pourquoi il a dit forant de l'ensemble, l'autre il a dit non? Mais là, kashka, il n'y a pas de question. Ah, deishta erbamide. La deuxième braïta, d'accord? La deuxième braïta qui a dit que on a l'obligation de rendre l'ensemble, on parle deishta erbamide. On parle que ils sont, que dans l'ustensile, d'accord, sont restés un petit peu de fruits. Ah, alors que la première braïta qui a dit que je n'ai pas l'obligation de proclamer sur l'ensemble, on parle de l'oïshtar mamidé qui n'est rien resté dedans. Donc ça c'est une autre manière de voir les choses. De toute façon, la Gemara va expliquer après quelle est la conclusion.
On a vu ce cas déjà.
Oui, on a vu ce cas dans la deuxième braïta, oui, effectivement. Ça c'est une bonne question, on verra ça après. Donc on a pour l'instant deux approches. On a l'approche de Rav Zavid, l'approche de Rav Papa. L'approche de Rav Zavid qui dit que on peut expliquer qu'on parle de deux cas distincts. Premier cas, on parle d'un cas dans lequel si vraiment le lin serait tombé du panier, il aurait dû laisser une trace dans le panier. Alors que dans le deuxième cas, on parle d'un panier à fruits. Deuxième réponse de Rav Papa qui dit, je vais te dire que les deux cas parlent d'un panier à fruits. Donc j'explique comme Rashi, parce que tout ça t'explique le contraire, hein, de ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il dit Rav Papa? Rav Papa, il nous dit que, en vérité, dans les deux cas, on parle de tsana opéré, c'est-à-dire d'un panier à fruits. Mais c'est quoi la différence entre les deux braïtotes? La première braïta parle d'un cas qui ne reste rien du tout dans l'ustensile. Donc on n'a pas de preuve que les fruits proviennent de l'ustensile. Alors que dans la deuxième braïta qui a dit qu'il fallait proclamer l'ensemble, on parle d'un cas qui reste un petit peu de fruits dans le panier. D'accord? Puisqu'il reste un peu de fruits dans le panier, donc ça veut dire que ce serait une preuve, comme tu as dit tout à l'heure, Dov, la probabilité, que certainement, les fruits proviennent du panier.
Alors?
Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. On parle de deux cas différents.
Pourtant, c'est explicite quand il parle de la seconde braïta. Il dit bien que c'est qu'il restera dans le panier.
Alors, justement, bon.
Vous dites, Marc,
c'est Michelin. Pardon?
Non.
Si quelqu'un trouve l'ustensile avec l'alcool devant lui.
Dans la deuxième braïta, d'accord, il faut bien faire attention à ce qu'on a dit. Dans la deuxième braïta, on a dit si une personne a trouvé quelque chose qui a un siman à côté de quelque chose qui n'a pas de siman. Mais on n'a pas expliqué de quel cas on parlait. On n'a pas du tout expliqué. On n'a pas expliqué est-ce que dans l'objet qui a un siman, est-ce que dans le panier il y avait un signe qu'il y avait des fruits. On n'a pas expliqué. On a juste simplement dit j'ai trouvé quelque chose qui a un siman à côté de quelque chose qui n'a pas de siman. C'est ambigu.
C'est juste dans la première où il précise.
Oui, dans la première, voilà. On a précisé. Donc, il n'y a pas de contradiction pour l'instant, tout va bien. Bon. Alors, on dit comme ça. Ça, c'est la réponse de Rav Papa. Rav Papa donne une deuxième réponse. Zeiba Itema, si tu veux, je vais te dire encore une autre réponse. Avea de l'Oeshter Bamide. Regardons encore, il faut suivre la logique de la Gemara. Je vais te dire que dans les deux cas, on parle d'un panier à fruits, d'accord? Et on parle dans les deux cas d'un panier à fruits dans lequel, dans le panier, il ne reste rien du tout.
Et pourtant, il n'y a pas de difficulté.
Comment il fait? Il dit comme ça, mais là, caché, il n'y a pas de question. Ademe Adreapé les Gabé Péré. Dans un cas, on parle que l'ouverture de l'ustensile est dirigée vers les fruits. C'est-à-dire, tu vois un kaba qui est posé par terre, et l'ouverture du kaba est dirigée vers les fruits. Que là, on a pas mal de chances, d'accord, qui disent que, on a certainement, on a beaucoup de probabilités qui disent que, certainement, c'est tombé de ce kaba. Hein, t'as un kaba posé par terre comme ça, et l'ouverture du kaba est dirigée vers les fruits. Très bien. Donc,
ah ouais, c'est...
Donc là, ce serait la deuxième.
Donc là, ce serait la deuxième. Ah, de méadré appel gabé péré. Dans le deuxième cas, on parle d'un cas que...
Les experts, là.
On parle d'un cas que les... De méadré... Pardon, c'est quoi les...
Et c'est un film avec les experts. Hein.
Ah.
Où les types, avec n'importe quoi, ils peuvent te trouver que qui est le meurtrier parce qu'il avait...
Bah oui. Vous voyez comment on a pris le même cas. On a déjà trouvé trois hypothèses possibles. C'est pas fini, hein. Donc, Ademé Adré appelé le Gabé Péré. Dans le deuxième cas qui a dit que j'avais l'obligation de proclamer sur l'ensemble. Pourquoi je dois proclamer sur l'ensemble? Parce que l'ustensile est dirigé vers les fruits. Donc, j'ai de fortes chances à penser, d'accord, que l'ustensile, que les fruits sont tombés de l'ustensile. Donc, c'est pour ça que je proclame sur l'ensemble. Alors que le premier cas, Ademé Adré appelé le Gabé Péré. Dans le cas dans lequel on a dit tu gardes les fruits pour toi et tu proclames uniquement l'ustensile, de quelqu'un en parle. Ademé Adré appelé le Gabé Péré. On parle que l'ustensile n'est pas dirigé vers les fruits. Vous voyez, c'est intéressant comment nous, quand on a eu les deux premiers cas, on s'est même pas posé toutes ces questions. Pourquoi poser toutes ces questions? Est-ce que l'ustensile est dirigé vers les fruits? Est-ce qu'il reste un petit peu de fruits à l'intérieur? On s'est pas posé toutes ces questions. Et là, on voit que quand la Gemara commence à analyser, on voit qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails qui font qu'on peut dire noir et blanc. Pas de problème, parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont... Vous voyez, juste maintenant, on a eu trois détails possibles. On a eu, premier détail possible, c'est le fait que c'est le lin. Ça veut dire que certainement, c'est possible que dans l'ustensile, il devrait rester une trace. Deuxième piste possible, d'accord, c'est qu'on a dit, c'est quoi la deuxième piste possible? C'est qu'on a dit qu'il peut rester un petit peu de fruits dans l'ustensile, ou il ne peut ne pas rester des fruits dans l'ustensile. C'est la deuxième piste. Troisième piste possible, est-ce que l'ustensile est dirigé vers... Est-ce que l'ouverture de l'ustensile est dirigée vers les fruits ou l'ouverture de l'ustensile n'est pas dirigée vers les fruits? Oui.
C'est ce qui me dérange un petit peu, c'est la première réponse de Rafapa qui amène en fait ce qui est contenu dans la Braïta. Ce qu'on avait déjà vu. C'est-à-dire il résout la contradiction apparente des deux Braïtot en ramenant quelque chose qui est déjà contenu dans une des deux Braïtot.
Non, la première Braïta a dit directement les deux cas. D'accord. La deuxième Braïta a parlé d'un cas sans expliquer de quel cas elle parlait. Donc tout ce que Rafa y vient, je te dis, la deuxième Braïta parlait du deuxième cas de la première Braïta.
Ah, ok. D'accord.
C'est en vérité ce qu'il a dit. Okay. Donc il n'y a pas eu de répétition, il y a eu simplement deux bêtes à midrash dans lesquelles on a parlé de deux choses différentes. Veïbaïtema.
C'est parce que ceux qui ont fait la Mishnah, ils sont au courant de tous ces cas-là. Ceux qui ont fait la Mishnah.
La Mishnah n'a pas parlé de tout ça. La Mishnah a dit si j'ai trouvé.
En ce moment, à quoi elle sert la Mishnah?
La Mishnah a dit si j'ai trouvé.
Tellement vague et sans connaître.
Mais ceux qui ont fait la Mishnah, ils ont fait toute la
barade. Le contenu, le panier perdu et on a compris.
À l'époque de la Mishnah, c'était clair.
C'était clair.
Ça sert à rien, alors, la Mishnah, alors.
Mais si, au contraire, c'était clair pour eux.
Ça sert à rien du tout.
C'est comme si je veux dire, le chumash, ça sert à rien. Mais du 613 blanc, on comprend rien du tout. Tu peux pas nous dire clairement ce qu'il veut?
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est tellement obligé d'aller dans les détails pour comprendre quelque chose. Bah, ça sert à rien, Mishnah.
Mais eux,
parce que plus on avance dans les générations, et plus on devient bête.
Et après, t'as besoin de Rashi. Rashi, il sert à rien, puisque sans Rashi, on comprend pas. Et après, il y a les deux blocs. Mais ouais, heureusement qu'il y a les deux. Plus on va et plus on a besoin des choses.
Aujourd'hui, on a le Shulchan Aruch qui est venu expliquer à la Gemara. Et maintenant, il nous faut le. Après, on a eu le Kitzur Shulchan Aruch qui est venu faire le résumé du Shulchan Aruch. Et maintenant, même sur le Kitzur Shulchan Aruch, il nous faut encore les commentaires sur le Kitzur Shulchan Aruch. D'accord, donc nous on va dire, au lieu d'étudier toute la pyramide, on va directement au bout du compte.
Et ils t'ont traduit en français pour que tu puisses lire en français maintenant, et après, qu'est-ce qui reste?
Bon, on va avoir une quatrième hypothèse de Rav Papa. D'accord, toujours Rav Papa. Rav Papa a donné trois réponses. Donc quatrième hypothèse qui nous provient, la première était de Rav Zevid, et Rav Papa nous donne trois réponses. Veïbaïtema, si tu veux, je vais te répondre. Intéressant, quand on va à la Gemara, on voit comment en vérité, quand on lit la Mishnah, on n'a rien compris.
On pense avoir compris quelque chose.
On pense avoir compris, mais en vrai, on n'a rien compris.
C'est clair.
On pense que c'est clair, mais... Tu m'as pas posé toutes ces questions quand on a fait la Mishnah.
C'est ça l'exercice qu'il devrait faire. On lit Mishnah et quelles questions on peut se poser.
C'est évident.
Viens, ne regarde pas. Si c'est évident, ferme ta Gemara et dis-moi qu'est-ce que va dire Rafapa dans la quatrième hypothèse.
Quelle hypothèse tu veux donner?
Non, attends. Je peux mettre à réfléchir si tu veux. Mais si je m'en réfléchis, je vais me dire, non, on n'a pas vu ça marquer.
Il n'y a pas de problème.
Alors tu réfléchis
pas. Non, je suis jamais bloqué. Mais il va être je te réponds. A, V, A. L'odeur, oui. Non, mais non. Alors attention, non. L'odeur, ça rentre déjà dans le cadre de la première réponse.
Tu l'as.
De la réponse de Rav Zevid.
restait un peu de truc.
Qui reste un peu
un peu de choses. L'histoire du lin.
L'odeur, ça rentre dedans. Là, on a eu trois pistes pour l'instant. Trois pistes, on a eu. On a eu une première piste qui était sur un signe. Première piste, c'est dans l'ustensile, il reste plus rien. Mais il y a un signe dans l'ustensile qui laisse à dire que dans cet ustensile, il y a quelques instants un objet. Ça, c'est la première piste. C'est-à-dire, dans l'ustensile est vide. Mais dans cet ustensile qui est vide, il y a un signe, d'accord? Il y a un indice qui me laisse montrer que
ça peut être l'odeur.
Ça peut être l'odeur, ça peut être ce que vous voulez. Deuxième piste qu'on a eue, c'est quoi? C'est de dire, il reste quelque chose dans l'ustensile. Peut-être qu'il reste encore quelque chose dans l'ustensile. Troisième piste qu'on a eue, il reste rien dans l'ustensile, mais l'ustensile est dirigé, d'accord? Là, c'est une vraie enquête. L'ouverture de l'ustensile est dirigée vers l'objet. Quatrième piste, monsieur Yaakov. Veille Baïtema, si je te réponds.
Mais pas une preuve.
AVA,
par rapport à un meurtre.
De Méadré à P, les Gabé Péré. Si tu veux, je vais te répondre une quatrième réponse. D'accord? De Méadré à P, les Gabé Péré. Dans les deux cas, on parle d'un panier à fruits. Et pas seulement d'un panier à fruits, d'un panier à fruits dans lequel le panier est dirigé vers les fruits.
Et pourtant, dans un cas, on.
Et pourtant, dans un cas, on dira oui, dans un cas, on dira non.
On annonce les deux.
C'est quoi la.
Panier à fruits,
écoute bien, Yaakov. Écoute bien, Yaakov. Vela Kachia, il n'y a pas de question. Ad it le oganim le tana, dans le premier cas qui a dit que je proclame que sur le panier et pas sur les fruits, de quel cas on parle? De it le oganim le tana. On parle que le panier a une bordure.
Un rebord.
Puisque le panier a un rebord, même si les fruits sont tombés, même si la majorité des fruits sont tombés, mais un peu des fruits au moins aurait dû rester bloqué, aurait dû être bloqué par le rebord. Alors que dans la deuxième braïta, de quel cas on parle? On parle que il n'y a pas de bordure, letzana. Donc il n'y a pas de bordure au panier. Donc puisqu'il n'y a pas de bordure au panier, certainement, d'accord, s'il n'y a pas de bordure au panier, donc là, ça veut dire comme ça. Dans la première braïta qui a dit que
on annonce qu'un.
Tu annonces que le panier et tu gardes les fruits. De quel cas on parle? Oui, on parle d'un cas que le panier avait une bordure.
Puisque le panier a un rebord,
bien sûr, bah oui.
Puisque le panier a un rebord, qu'il n'y a plus rien dans le panier, c'est que les fruits ne dépendent pas du panier.
Donc le fruit ne dépend pas du panier. Donc je garde. Oui, mais bon, c'est ça qu'on parle. Donc je garde les fruits et je proclame le panier. Ça c'est le. Et je proclame le panier. Alors que dans la deuxième variété de quel cas on parle, D'accord, on a réussi à trouver un cas qu'on parle d'un panier à fruits. Le panier est dirigé vers les fruits. Mais il n'y a pas de rebord. Donc puisqu'il n'y a pas de rebord.
Les fruits peuvent tomber. Voilà, et donc ils font partie du panier.
Donc il faut proclamer surtout. C'est-à-dire que là, Rafapa nous donnait une quatrième piste. Ça se rapproche un petit peu de la première. Sauf que la différence entre la première réponse de Rafapa et cette réponse, c'est que dans la première réponse de Rafapa, il y a un signe qui est resté dans le corps de l'ustensile. Alors que là, j'ai pas de signe dans l'ustensile. Mais la morphologie, la forme de l'ustensile m'amène un nouvel indice.
La bordure.
D'accord? Ah oui. Ça fait des enquêtes tout ça. Donc maintenant Yaakov, tu vas me répéter les quatre choses qui étaient évidentes, tu vas me répéter les quatre pistes qu'on a eues ici.
Alors,
l'enquête.
Est-ce qu'il reste de l'objet dans le...
Ça c'est la première piste.
Reste des vides.
Première piste.
Oui, c'est ça.
Non.
Est-ce qu'il reste...
Non, c'est pas ce qui reste. Ça, c'est après Rafapa, déjà.
Ah oui, le premier.
Première piste, c'est quoi?
Je sais pas.
S'il reste une
trace. Il faut définir la première... Ça veut dire quoi, il reste une trace?
Tu m'en rappelles que le lin, il reste un morceau de lin.
Voilà, on fait une enquête ici. On a une enquête devant nous. D'accord? On a une enquête devant nous. On va essayer de déterminer est-ce que les fruits sont tombés du panier ou ils ne sont pas tombés du panier. D'accord. Alors on a quatre pistes. Première piste qu'on va avoir, c'est qu'il reste un signe, d'accord, dans le panier. Par exemple, ça peut être l'odeur, ça peut être le fait que si c'est du lin, il reste un petit peu, il reste des fibres de lin.
C'est du vent.
Ça peut être... Non, ça reste attrapé, ça s'attrape.
C'est un ouragan, excuse-moi.
Il n'y a plus de panier.
Ah, mais si l'ouragan, il est venu.
Il n'y a plus de panier.
Il est venu, il a ressoufflé.
Donc, on est d'accord.
Il y a le même nombre de probabilités que ça s'est passé que ce que tu dis est vrai. D'accord. Donc, on a eu 4 pistes.
Un chien est venu, il a léché à l'intérieur.
C'est intéressant parce que même si c'était trois réponses de Rafapa et une réponse de Rav David, en vérité, nous, ça nous permet de développer 4 pistes. Première piste, ça peut être l'odeur. Ou bien ça veut dire que ça peut être l'odeur ou bien une trace qui est restée dans l'objet.
Voilà, première piste.
D'accord. Donc ça peut être l'odeur, même si dans l'objet il n'y a plus de traces, même si l'objet est vide, d'accord, l'ustensile est vide, mais ça sent, il y a une odeur par exemple. C'est la première piste. Deuxième piste qu'on a dit, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'il reste quelque chose dans l'ustensile ou il ne reste pas quelque chose dans l'ustensile? D'accord? Ça veut dire, est-ce qu'il... donc ça veut dire, par exemple, si on... je vais vous donner un exemple avec un meurtrier.
Un exemple, oui.
Voilà, vous donnez un exemple avec un meurtrier.
Loin.
Voilà, on va donner un exemple, peut-être que vous allez mieux comprendre avec ça.
Oui.
On a un cadavre qui est là posé par terre, un mort. D'accord. Comment t'as dit, ça s'appelle les quoi? Les experts. Bon. On a un cadavre qui est posé par terre. Bon. On a un cadavre qui est posé par terre et on a attrapé un suspect. Bon. Comment ils vont faire les enquêteurs maintenant? Les enquêteurs vont essayer d'analyser. Ils vont prendre 4 pistes différentes. Première piste qu'ils vont faire. Est-ce que chez le suspect, on peut retrouver quelque chose qui va nous montrer que si le suspect n'a pas de sang, n'a rien du tout, mais est-ce que peut-être le suspect a l'odeur ou l'ADN exactement? L'ADN du mort. Donc on va chercher. Premier indice. Deuxième indice qu'on va chercher. Est-ce que carrément le meurtrier a du sang sur lui? Donc là effectivement, il y a beaucoup de sang qui est là-bas, beaucoup de sang qui est sur le cadavre, mais il y a un peu de sang qui est sur le corps du suspect, donc là c'est sûr, c'est un indice.
Le sang qui appartient au cadavre.
Ouais. Deuxième indice.
Non,
j'ai pas dit que c'est sûr, mais c'est des indices qui vont nous obliger à proclamer, c'est-à-dire qu'ils vont nous obliger à chercher plus loin. Troisième indice qu'on peut trouver. D'accord? Il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien. C'est quoi le troisième indice qu'on peut trouver? C'est qu'on voit que le suspect a été trouvé à proximité du cadavre.
Ça c'est l'ouverture. Hein.
L'ouverture.
Ça c'est l'ouverture, dirigée.
Voilà. Dirigée.
Il est à proximité du cadavre.
Il est là. D'accord, il est à côté. Donc monsieur, vous êtes suspect. Donc ça c'est un troisième indice possible. Quatrième indice possible, c'est quoi?
Quatrième indice possible.
Avec la bordure, qu'est-ce qu'on peut trouver avec la bordure?
Avec la bordure, c'est que...
Il prend la signe de la main là.
Par exemple, il était tué par un coup de couteau et le mec il a pas de bras.
Non, alors voilà, je vais vous montrer un quatrième indice. Quatrième indice, d'accord, c'est que la personne, on va trouver qu'il a été tué à coup de couteau.
Il a pas de bras.
Et on retrouve un couteau.
Le suspect n'a pas de
bras.
Écoutez
bien ce que je veux dire. On retrouve un couteau chez le suspect, mais le couteau du suspect est propre, il n'y a pas de trace dessus, mais il y a un couteau.
Avec la même largeur.
Il y a un couteau. Ben, on sait pas, il n'y a pas de trace, on sait pas, mais il y a un couteau. Le gars il a un poignard.
Tout le monde a un poignard.
Ça, c'est un arabe.
Et c'est pas normal d'avoir un poignard.
Okay. C'est pas une bordure, ça,
quand... pas... Si, c'est le même concept que la bordure. C'est le même concept que la bordure. C'est-à-dire qu'il y a une trace chez lui, d'accord? Il y a une trace dans l'ustensile, d'accord? Mais c'est une trace qui ne dit rien. C'est comme la bordure de l'ustensile. Il y a plein d'ustensiles qui ont une bordure. D'accord. Ça veut dire que la bordure de l'ustensile, ça veut rien dire. Mais dans le cadre de notre trouvaille, le fait qu'il y ait une bordure, ça va nous rajouter un indice. Ça bien que la bordure en soi, c'est rien, ça veut rien dire une bordure. Mais dans le cas que j'ai ici, d'accord, la bordure va me rajouter un indice. Moi je pense que la bordure c'est le cas le plus poussé. D'accord, c'est vraiment, on est parti chercher un indice dans quelque chose qui n'a aucun rapport avec le fait. C'est exactement le cas du couteau. Ça veut dire, le couteau est propre, il n'y a pas de signe ADN, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Mais le fait qu'il a un couteau, c'est pas normal. D'accord.
Je peux rajouter un autre, parce que tu disais qu'il peut rajouter un autre. Je peux rajouter un autre sur Raf Papa.
Vas-y.
Si le sac est fermé, à moitié fermé, complètement ouvert ou autre.
Si le sac est...
Il peut être fermé. Le panier, il peut être fermé. Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il est ouvert?
Bien sûr, s'il est fermé.
Non, mais s'il est à moitié ou fermé, moitié ouvert.
C'est quoi moitié fermé, moitié ouvert?
S'il est... C'est un truc avec une
fermeture
éclair.
C'est assez ouvert pour que ça tombe. S'il est moitié ouvert, moitié fermé, ça rentre dans la quatrième réponse qu'on a dit. La bordure.
C'est la bordure.
Non, mais je veux dire que s'il est fermé, on part du premier cas.
La première braïta,
et s'il est ouvert, on peut dire la différence entre les deux qu'on proclame, que l'un ou que l'autre, c'est que dans l'un il était fermé, et dans l'autre il était ouvert.
Ça rentre dans la quatrième. Mais en tout cas, quand vous ferez la chazara, vous verrez que les quatre pistes qu'on a données ici, c'est quatre pistes distinctes. C'est quatre pistes complètement distinctes. Est-ce qu'il reste de l'odeur de l'objet? Est-ce qu'il reste un petit peu de sang? Est-ce qu'il reste le quatrième, c'est est-ce que le suspect est dirigé vers la chose, d'accord? Et le cinquième, c'est est-ce qu'il a un couteau sur lui? C'est quatre pistes complètement différentes. C'est quatre pistes.
Quelqu'un vient maintenant, il t'entend parler de ça, il fait mais quel Mishnah est en train d'étudier cela?
Bon voilà, c'était plus clair avec un exemple. Donc on a répondu à la question.
Il n'y a pas de mobile avec lui. Il
n'y a rien. S'il y a un mobile, c'est facile. Donc là, on a eu...
Il ne voit pas les experts, mais il est très bon.
Est-ce qu'on a répondu à notre question? On a répondu à la question qu'il n'y a pas de contradiction. On a utilisé 4 pistes pour expliquer pourquoi il n'y a pas de contradiction. Maintenant, la Mishnah, la Gemara, elle continue. Elle dit... Tibor et Péot, Tibor et Maot. Donc, on a répondu à notre question, d'accord? On a répondu à notre question, il n'y a pas de contradiction. Donc maintenant, la Gemara va continuer et va développer la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la suite de la Mishnah? On avait dit, si une personne a trouvé des tas de fruits, d'accord, des piles de fruits, ou des piles de pièces.
Maot, c'est des pièces?
Oui, des pièces.
Maot, c'est comme
La mara de l'époque, c'était une pièce. Ouais. C'est une pièce, c'est comme aujourd'hui, un centime. C'est des marottes.
Là, c'est des piles de marottes.
Après, on dit comme ça. Donc, s'il a trouvé des piles, comme ça, il traduit ça? Des piles de fruits ou des piles d'argent. Qu'est-ce qu'on a dit? Parlons-en.
Attention, c'est bien rangé les piles. Hein.
Justement. La Gemara va en parler. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans ces cas-là, j'ai l'obligation de proclamer. Si tu me dis que j'ai l'obligation de proclamer, ça veut dire que tu considères qu'il y a un siman.
Oui.
D'après vous, quel est le siman?
C'est la manière dont c'est rangé.
C'est
l'agencement.
L'agencement, très bien. Alors on va voir ce que va dire la Gemara. La Gemara a dit, la Gemara d'abord va partir complètement dans une autre piste. Elle dit, Shamat Mina. Je comprends d'ici, puisque tu me dis qu'il y a un tas, c'est-à-dire forcément il y a plus qu'une pièce. Eh bien d'accord. Pour former un tas, il faut plus qu'une pièce. Vous me suivez? Pour former une pile, il faut plus qu'une pièce.
Ouais.
Donc Shmat Mina, de là j'en déduis, que Minyan avait Siman. De là j'en déduis que le nombre est un Siman. Ça veut dire qu'en vérité, on pourrait dire que quel est le Siman ici? Le Siman ici, c'est le nombre. Et c'est effectivement, d'ailleurs on avait vu ça. Écoutez bien, la Gemara ne dit pas ça pour rien, parce que on avait étudié ça il y a deux pages en arrière.
Oui,
on avait étudié que le nombre est un siman.
Oui.
Donc est-ce que le nombre ici est uniquement le nombre?
Non.
Est-ce que je veux dire le siman ici est uniquement le nombre?
Non.
Quand on voit la première partie de la Mishnah, on peut penser que oui. On peut penser que quand tu me dis une pile de pièces, peut-être que le siman est uniquement le nombre, c'est suffisant déjà. Le nombre est déjà un siman suffisant. La Gemara repousse ça. Hein.
C'est du vent.
D'accord. Pourquoi la Gemara repousse ça? Marie a dit Tan et Tibor Maot. D'accord. On dit comme ça. On dit que on n'a pas dit que en vérité, s'il faut, en vérité, on a vu qu'il a trouvé Tibor Maot. Ça veut dire comme ça. Nous, quand on a vu de la Mishnah, c'est écrit dans la Mishnah Tiboré Maot. Tibor en hébreu, ça veut dire un tas ou une pile. D'accord. Tiboré, ça veut dire des piles. Des piles.
D'accord.
Vous me suivez? Donc ça veut dire comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, si on traduit comme il faut la Mishnah, on devrait comprendre que la personne a trouvé des piles de pièces. Donc là, effectivement, on comprend pourquoi la Gemara comprend que c'est le nombre qui est un siman. Qu'une pile en soi n'est pas un siman, mais le fait qu'il y a plusieurs piles, donc le fait qu'il y a un nombre de piles, c'est ce qui forme le siman. La Gemara dit non, en vérité, on a mal compris la Mishnah. Il faut comprendre, c'est comme je vous avais traduit directement dans la traduction de la Mishnah, il faut comprendre que c'est pas des piles d'argent, mais c'est une pile d'argent. Et donc dans ce cas-là, effectivement, quel serait le siman, messieurs? Quel serait le siman?
Non.
Non. Dans ce cas-là, c'est l'agencement. Donc ça s'appelle le macom.
Tibor et Tiboré, c'est écrit pareil?
Non, c'est écrit pas pareil.
Alors comment on peut dire que...
Parce que Tiboré, en hébreu, ça peut vouloir dire la même chose. Tiboré en hébreu, ça peut vouloir dire le pluriel. Et Tiboré, ça peut vouloir dire aussi un cas. On parle du cas où j'ai trouvé un tas d'argent. C'est-à-dire, ça peut se traduire par les deux. Donc, on va reprendre notre cas. D'accord? On va reprendre notre cas. Un cas très simple, donc je trouve devant moi un tas d'argent. Une pile d'argent, une pile de pièces. Pile de pièces, voilà, j'ai pu trouver une pile de pièces. Je trouve 10 pièces de 10 euros, 10 pièces de 2 euros empilées. Quel peut être le siman ici? On va analyser ensemble quel peut être le siman. On peut avoir le nombre. Mmh. On peut avoir également la manière comment ils sont rangés. Le fait qu'ils sont empilés, donc ça veut dire l'endroit. Ça veut dire l'emplacement.
L'endroit, l'emplacement, ça va paraître.
C'est la même chose. C'est la macom.
La façon dont ils sont
empilés. Ça veut dire que la pièce en soi. Si, c'est ça le macom. Le macom, c'est quoi le macom?
Le macom, c'est pas spécialement l'endroit dans lequel il se trouve.
Non.
C'est le macom
aussi,
oui.
Le macom, ça peut vouloir. Le macom, ça... j'ai deux simans possibles ici. Le deux simans possibles, c'est quoi? Premier siman possible, c'est le nombre. C'est-à-dire la pièce en soi n'a pas de siman. C'est ça notre problème. La pièce en soi n'a pas de siman. Il y a des milliards de pièces qui sont en circulation. Il n'y a pas de siman. Donc, j'ai deux simans possibles. Premier siman possible, c'est le nombre. C'est-à-dire la personne va dire, écoute, je sais pas comment ils sont entreposés, mais je sais que j'ai laissé 10 pièces de 2 euros. Donc, le nombre est un siman. Le deuxième siman possible, c'est l'agence, la manière comment ils sont posés.
Sauf si c'est la manière habituelle d'agencer les pièces.
Qu'est-ce qu'elle aurait
fait?
Si on les annonce par 10, on les met toujours par 10 ou par mal.
Oui,
c'est plus un signe.
Donc le signe est... Je viens t'aider. Je viens te soutenir.
Donc on dit comme ça. Ça c'est la Gemara. La Gemara développe. D'accord. Elle dit, Shmat Mina, de là on apprend que Makom avait siman. Tan et Tibore Maot. Donc ça veut dire que la Gemara ici... En vérité, la Gemara ici nous montre que on sait, selon la Lacha, on a appris déjà trois pages en arrière, enfin deux pages et demie en arrière, on a appris que le Makom est un siman et le Minyan est un siman. C'est-à-dire que l'emplacement est un siman et le nombre est un siman. Mais on essaye d'amener une preuve de notre Mishnah. D'accord ? Est-ce que le nombre est un siman ou est-ce que l'emplacement est un siman ? De notre Mishnah, on n'a aucune preuve. L'autre Mishnah, on sait que notre Mishnah a dit qu'une pile de pièces, j'ai l'obligation de proclamer. Pourquoi je dois proclamer ? J'ai deux pistes possibles. Ou bien je dois proclamer parce que le nombre est un siman, ou bien je dois proclamer parce que l'emplacement, la manière comment ils sont entreposés est un siman. Je peux dire ou l'un ou l'autre, je peux dire l'un comme l'autre. Donc est-ce que, c'est-à-dire dans les faits, l'halakha ne changera pas. Mais nous, on a essayé d'utiliser cette Mishnah pour amener une preuve que le nombre est un siman, ou pour amener une preuve que l'emplacement est un siman. On n'a une preuve ni pour l'un ni pour l'autre.
Attends, t'as quand même un problème de langage, excuse-moi.
Hein. Oui.
Quand tu dis que toi, pour toi, le Makom revient dessus, c'est la manière dans cette agence. Là, je ne dis pas ça. Dis l'emplacement. L'emplacement, c'est pas pareil que l'agencement. C'est deux choses différentes.
Oui, t'as pas dit le contraire.
L'emplacement est un siman ici. L'emplacement ici, oui. L'emplacement, c'est qu'on a deux types de siman quand on a un objet. Premier type de siman quand on a un objet, c'est le nombre. Ça veut dire qu'il est posé n'importe comment, mais il y a un nombre. D'accord. Deuxième type de siman, c'est ni le nombre, ni un signe sur l'objet même, mais c'est la manière comment il est entreposé. Si tu dis la manière comment il est entreposé, ça peut être que le fait que l'objet est formé comme une pile, oui. Ça peut être que l'objet est caché quelque part, c'est la manière comment il est entreposé.
Ah oui, mais c'est pas la même chose.
Si, c'est la même
chose. Parce que, regarde, par exemple, quelqu'un, il vient chercher
son... Non, mais c'est le même... Ce que je veux dire, c'est que... C'est en français... Ouais, c'est en français, peut-être en français, on ne traduit pas de la même manière, mais je crois que c'est le même concept.
Je vais au tribunal, je dis, voilà, j'ai perdu 10 pièces de 1 euro.
Oui.
D'accord. Qui étaient empilées l'une sur l'autre,
Jacob,
mais c'était à côté du chêne.
C'est Jacob.
C'est pas vrai, à côté du
chêne. Jacob, je t'arrête tout de suite. C'est le contraire, ici, là. Là, c'est le contraire. C'est celui qui a trouvé qui va obéir. Pas celui qui a perdu.
Voilà.
Alors, on va continuer. Refais ton exemple.
Celui qui a trouvé. Et j'ai trouvé 10 pièces de 1 euro, empilées les unes sur les autres, à côté de l'arbrisseau.
Très bien.
C'est quand même un signe supplémentaire.
Donc ici, on a trois.
Dans le champ.
Donc ici, on a trois pistes.
Trois pistes.
C'est quoi les trois pistes qu'on a ?
Ben justement, l'endroit.
Première chose, on commence d'abord par le nombre.
Le nombre.
Le nombre.
L'endroit précis et l'agencement.
L'agencement. Maintenant, ce que je veux te dire, Jacob, c'est que les deux derniers simanis que tu m'as dit, c'est-à-dire l'agencement et l'emplacement, ça rentre dans la même catégorie. Ça rentre dans la catégorie que je n'ai pas de siman, j'ai pas de siman sur le nombre. Enfin, peut-être j'en ai pas, ou peut-être ça marche pas, d'accord. Mais j'ai un siman dans la manière comment ils sont entreposés. Peut-être c'est caché quelque part.
La manière est où pour toi, c'est pareil.
C'est la même chose, bien sûr. C'est le même concept.
C'est pas la même précision.
Même si en français c'est deux mots différents, même si en hébreu c'est deux mots différents, mais le concept est le même. Non, ça change pas, même ça ne dérange pas la traduction.
Dans l'idée, elle correspond pas au terme.
C'est comme si tu m'avais dit, par exemple, pour le panier qui est tombé, où est-ce qu'il est orienté, est-ce qu'il y a un rebord ? Comment il est le panier ? Et toi, quand tu dis comment il est le panier, pour toi ça veut dire, est-ce qu'il est orienté vers les fruits et est-ce qu'il y a un rebord ?
Moi, ce que je veux dire par ici, c'est que pour moi, d'ailleurs on va développer après, hein, l'emplacement, pour l'instant, ce qu'on a compris dans la Gemara, en bas de la page 25, on va développer un peu plus ces concepts-là, la manière comment ils sont entreposés, parce que là, on s'imagine une pile comme ils sont bien posés, mais après on peut avoir une pile pas bien posée. Hein, une pile un peu décalée.
La pile encore, c'est pas un signe. Mais je crois qu'il y a un coup
donc, dans l'exemple que tu m'as donné, j'ai trois pistes. D'accord. J'ai premièrement le nombre, deuxièmement l'emplacement, et troisièmement l'agencement.
Voilà.
D'accord. Ce que je suis en train de te dire, c'est que selon la Gemara, pour l'instant, l'agencement et l'emplacement, ça rentre dans la même catégorie. C'est le même corps. D'accord. C'est le même, tu dis ?
Non, j'ai dit c'est ma com.
C'est ma com, c'est l'endroit. Très bien. Donc, continue. Dis comme ça. Shloshamat Beot, Zal Gabzé. Et là, on va développer. On va développer un petit peu, mais en vérité, on développera ça vraiment que la semaine prochaine. On avait dit, autre cas qu'on a... Donc, en d'autres termes, je veux conclure ce qu'on a dit jusqu'à présent. On a essayé de dire que de la Michelin, on avait une preuve que le nombre est un siman, ou que l'endroit est un siman. On a expliqué qu'on peut avoir une preuve ni pour l'un, ni pour l'autre. Pourquoi ? Parce que quand tu me dis une pile de pièces, je peux avoir deux pistes. Dans ton cas, Yaakov, je peux avoir même trois pistes, puisque c'était posé à côté d'un arbre. Bon, là, on n'a pas dit que c'était posé à côté d'un arbre. Je peux avoir deux pistes possibles. Donc, quelle piste la Michelin a privilégiée ? Peut-être une, peut-être la première, peut-être la deuxième, peut-être les deux. Donc est-ce que j'ai une preuve ? Non, j'ai pas de preuve. Dans la halakha, on sait que le nombre est un siman et que le makom est un siman. Mais je n'ai pas de preuve de notre Mishnah. Très bien. Donc on continue. Shlosha matbeot zeh al gabzeh. On avait dit que dans la Mishnah, troisième cas qu'on avait dit, si j'ai trouvé trois pièces posées zeh al gabzeh l'une sur l'autre.
Alors pourquoi c'est trois ?
Trois pièces. Ah bien. D'abord, pourquoi ? Alors quelle question on a ici ? D'abord, pourquoi trois pièces ? Et deuxième question que vous pouvez me poser, qu'est-ce que ça veut dire poser l'une sur l'autre ?
Je pense par exemple que 3, c'est commencé à être une pile.
Donc 3, tu poses une bonne question, tu dis 3, ça commence à être une pile. Donc qu'est-ce qu'on a rajouté par rapport à ce qu'on a dit avant ?
Le pluriel, c'est une pile.
Le pluriel, c'est une pile ?
Bah 2, c'est 2.
Non. Là, on comprend déjà. On comprend déjà que 2, c'est pas une pile. D'accord, que pile, c'est, à partir de quel...
Empiler, c'est mettre une chose sur l'autre.
C'est vrai. Mais quand on voit un objet posé sur l'autre, on ne considère pas vraiment que c'est empilé. On considère que c'est empilé seulement quand on a plusieurs objets. Donc on va dire que ça encore, on va comprendre pourquoi c'est Q3. Bon, allez, bon, on va développer, mais on va dire encore, on comprend.
On peut
comprendre. On peut comprendre. Donc, nous, ce qu'il faut comprendre ici maintenant, on va s'arrêter sur le fait qu'on a dit trois pièces posées, Zé Al-Gavzé, l'une sur l'autre. Qu'est-ce qu'on considère poser trois pièces posées l'une sur l'autre? On vient de parler juste avant de Tibor et Mahot, des piles de pièces. Quand tu me parles ici de trois pièces posées l'une sur l'autre, de quoi tu parles? Réponds à la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak Migdela. Rabbi Yitzhak de Migdal. Migdal en hébreu, ça veut dire une tour, et vous verrez que le nom qu'on lui a donné, c'est un rapport avec l'enseignement qu'il va dire.
Mais excuse-moi, c'est la première fois qu'on entend ce Rav. Est-ce qu'il a fait que cet enseignement, puisqu'on lui a donné le nom ou pas?
Le Rajba, il dit qu'en vérité, il s'appelait Rabbi Yitzhak, mais on lui a donné le nom Migdela par rapport à l'enseignement qu'il a dit maintenant. Vous allez voir tout
Donc des fois, on retrouve Rabbi Yitzhak, c'est le même.
Oui. Donc il dit comme ça. Amar Rabbi Yitzhak Migdela. Rabbi Yitzhak Migdela, donc Rabbi Yitzhak de Migdal, a dit comme ça. Il dit que... Vehu, c'est pas le Rajba, c'est Maharat Trayot qui dit ce que je vous dis.
Voilà.
Donc Amar Rabbi Yitzhak Migdela. Rabbi Yitzhak Migdela.
Il me disait aussi qu'il y avait quelque chose qui me perturbait.
Il y a tout et Migdali.
Il y a quelque chose qui me perturbait. Je ne voulais pas dire, mais il y a quelque chose.
Je
ne
voulais pas te reprendre, mais.
Vehu, Shatoui, c'est Migdali. Il dit que de quel cas on parle? Quand on parle de trois pièces qui sont posées l'une sur l'autre, a priori c'est le cas du tas. Qu'est-ce que tu m'as rajouté? De quoi on parle? Vehu, Shatoui, c'est Migdali. Il m'en parle que les trois pièces. D'accord, sont posés qu'émigdaline comme une tour. C'est-à-dire quoi comme une tour? Expliquez-moi ce que ça veut dire faire une tour. D'après vous, dans une tour, ça veut dire quoi? Quand on dit une tour, dans une tour, les étages les plus larges sont en haut ou en bas?
En bas.
Donc
c'est diamètre différent.
Donc, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il répond exactement, Khazak? J'y réponds Rabbi Yitzhak. D'après moi, de quoi on parle? On parle ici de trois pièces qui sont posées en forme de tour. C'est-à-dire que j'ai une pièce de 2 euros, d'accord, une pièce de 1 euro, une pièce de 20 centimes, c'est quoi là? Une pièce de 50 centimes, c'est plus grand, c'est ça. Donc j'ai une pièce de 2 euros, une pièce de 50 centimes, une pièce de 1 euro et une pièce de 20 centimes. Je crois que la pièce de 50 centimes, elle est un peu plus grande que la pièce de 1 euro.
La pièce de 1 euro, oui.
On a les plus grandes, elle est plus grande.
Ouais.
C'est comme la pièce de 5 francs et 10 francs. Vous vous rappelez, 5 francs et 10 francs? Le 5 francs était plus grand que les 10 francs.
Moi je t'ai pas né, mais oui, il vient de se
rappeler. Pas né comme...
les francs. Monsieur Daniel, il est en train de voir.
Là, en l'occurrence, on a 3 pièces. Hein.
Pardon?
En l'occurrence, 3 pièces. On a 3 pièces.
Oui. Donc il dit comme ça. Ah, ma Rabbi Yitzhak Migdela. Rabbi Yitzhak Migdela dit. Vehu shasuin ki migdali. De quel cas on parle ici? On parle ici que les 3 pièces sont posées que migdaline, ça veut dire comme une tour. Comme une tour, explique Rashi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pièce la plus large se trouve en bas, sur la pièce la plus large se trouve une pièce moyenne, et sur la pièce moyenne se trouve une pièce qui est petite. Comme la Gemara va expliquer. Et là, dit Rabbi Yitzhak Migdela, quand les trois pièces sont posées comme ça, ça nous montre que, en vérité, le propriétaire n'a pas, c'est pas simplement tombé de la poche du propriétaire, ça tombe pas comme ça. Ah, là, c'est posé, on comprend bien. Ça tombe pas de la poche du propriétaire, pile comme ça, pièce de 2 euros, pièce de 1 euro et pièce de 50 centimes, pièce de 20 centimes, c'est ça?
Je sais pas si c'est vraiment une tour, c'est comme ça.
Si ce n'est que les mêmes pièces, c'est la même chose, forcément ça a été...
Oui, alors justement, là, le cas des mêmes pièces, ça rentre dans le cas de la pile. Là, c'est un autre cas, c'est pas le cas de la pile. Là, c'est un autre cas, c'est un cas que le siman n'est pas la pile. Le siman est le fait qu'ils sont entreposés d'une manière comme ça, ça veut dire d'une manière en forme de tour, ça montre qu'ils n'ont jamais été, ils ne sont jamais tombés de la poche du propriétaire, il les a simplement posés.
Et quelle différence avec une pile de pièces identiques? C'est la même chose.
Ouais. La différence, c'est que dans la pile de pièces identiques, le siman peut être ou l'endroit, d'accord, ou l'emplacement, ou le nombre. Alors que là, c'est carrément une autre piste. Là, c'est même pas un siman. Là, on dit que la manière comment ils sont entreposés montre qu'ils n'ont jamais été tombés de la poche du propriétaire. Il les a simplement posés. Donc, j'ai même pas le droit de les toucher.
C'est même une pile de sa même taille.
Compris? Non, c'est pas la même chose.
Et l'emplacement, on a dit que c'est la façon de
l'emplacer. Voilà la question, monsieur Daniel. Vous avez posé une autre question. Il dit, mais a priori, dans la pile aussi, a priori, ça peut pas tomber de la poche du propriétaire en forme de pile. Très bien, parce que nous on s'imagine jusqu'à présent que c'est quoi une pile? Une pile, ça veut dire qu'ils sont bien rangés, comme des chemises, d'accord, bien rangés.
Forcément, même l'une sur l'autre.
Oui, attendez.
Ça va pas tenir.
Justement, parce qu'on n'a pas encore la bonne définition de la pile.
Voilà.
On va voir la fin de la page 25, je vous ai dit.
On va nous dire c'est parti, les unes à côté.
Vous allez voir, c'est pas si simple. C'est pas si simple.
Ah oui. Et quelle différence entre une taille et une pile alors?
Bien sûr.
Parce que notre langage...
ce ne sera pas la même chose. Là, pour l'instant, on nous parle d'un cas très précis, le cas de Migdal. Donc, si vous posez une bonne question, pour avoir la réponse à cette question, vous venez la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine le concept de qu'est-ce que ça veut dire une pile. Est-ce que c'est une pile? Comment ils sont posés?
Comment ils sont proposés? Pas comment comprendre.
Ah, vous allez voir, on va voir. Il y aura plusieurs réponses, plusieurs hypothèses, comme d'habitude. Là, pour l'instant, on analyse le fait de, on analyse la partie de la Mishnah qui dit Shloshamat Beot Zalgavze, trois pièces qu'ils ont posées l'une sur l'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yitzhak, Ridouch de Rabbi Yitzhak, qui nous dit de quoi on parle ici? On parle ici que les trois pièces sont posées en forme de tour. Ça veut dire que là vraiment, la forme comment ils sont posées les pièces montre qu'elles n'ont jamais, elles ne sont jamais tombées de la poche du propriétaire. Vous comprenez que c'est pas le même cas que le simen habituel. Il faut que j'explique quelque chose d'important ici. De manière générale, quand on dit qu'il y a un simen, pourquoi j'ai l'obligation de rendre l'objet? Parce qu'on dit même si le propriétaire a fait tomber l'objet, il se dit, puisque j'ai un siman, certainement celui qui va le trouver va le proclamer, donc je n'ai pas fait Yehush, donc je vais le retrouver.
Il n'a pas fait tomber, excuse-moi.
Ah, si, c'est non. Ça le siman. C'est ça le concept du siman.
Il a dit posé spécialement non. Pour faire un siman.
Je vais donner l'exemple du portable. D'accord? Je perds un portable avec un. Donc chaque portable a un numéro IMEI. Oui. D'accord? Un numéro, ce qu'on appelle numéro IMEI. D'accord? Ouais, Pourquoi quand je fais tomber mon portable, bon bien sûr que là quand on est chez des goyim, au bout de quelques temps je vais l'abandonner, mais pourquoi si je le fais tomber dans un endroit dans lequel il n'y a que des juifs, je ne vais pas l'abandonner? Parce que je dis que même si moi j'ai perdu mon portable, je l'ai perdu. Mais puisque mon portable a un siman, je compte le retrouver. Ça c'est le concept du siman. Le concept du siman c'est que même si j'ai perdu mon objet, je compte toujours le retrouver. Je n'ai pas perdu espoir. Donc tant que j'ai pas perdu espoir, le propriétaire, enfin celui qui l'a trouvé ne peut pas le prendre. Là, dans le cas des trois pièces qui sont posées en forme de tour, c'est autre chose.
Est-ce qu'il peut le prendre?
C'est pour dire que le propriétaire ne l'a même pas perdu. Oui. Il a posé,
c'est ce que je te dis.
D'accord. Donc vous comprenez, c'est une autre piste, c'est carrément une autre piste. Oui. Là, on n'a ni le nombre, ni l'endroit, c'est carrément, t'as pas le droit de le toucher, il n'est pas à toi. C'est à quelqu'un, il l'a posé, il est parti faire une course, il revient.
C'est ça.
D'accord. Quelqu'un intentionné, il peut récupérer l'objet, il le garde.
Oui.
Il l'utilise pas, il le garde en se disant le temps va passer et à un moment il aura fait Yehush.
Quelqu'un de mal intentionné, il le garde directement, qu'est-ce qu'il se prend la tête?
Non, pour ne pas, c'est un vol. Je vais dire, je vais pas le voler, je vais le garder, je vais mettre un emplacement, je vais mettre un autre emplacement et dans un an il va faire Yehush et je vais le récupérer.
Alors
je vais
ça,
le prendre.
C'est le tour Shouchanor qui parle de ça. Le tour, il dit que si un objet est venu dans la main d'une personne béissour par interdiction, à vie ne lui appartient pas.
Ah oui,
c'est trop facile disons. On dit comme ça. Tagne, Namiak.
On a un esprit tortueux.
Oui.
Donc en fait, quelqu'un qui a un rapport avec une femme qui est mariée, ne pourra jamais se marier avec elle si jamais elle divorce. C'est le
rapport. J'ai pas compris.
Ouh là là, c'est fort ce que t'es en train de dire. Mais je veux. Attends, toi déjà.
Imagine-toi, quelqu'un a une relation interdite avec une femme mariée.
Oui.
Bon. La femme mariée, son mari lui signe le guet.
Oui.
Lui, il signe le guet avec sa femme, par exemple. Est-ce qu'il peut se remarier avec la femme?
Théoriquement, oui.
Ah.
Théoriquement, oui, c'est pas de problème. Seulement, on dit que le Beddin, il a l'obligation d'enquêter. C'est écrit que le Beddin, il a l'obligation d'enquêter. Si c'est la personne avec laquelle tu as effectivement raison, que si le Beddin a des preuves que la femme a eu des relations avec telle personne, il n'a pas le droit de se marier avec telle personne.
Ah
oui, c'est trop facile.
Mais moi, j'ai des vies de...
Parce que si quelqu'un, il veut une femme mariée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la séduire.
Oui.
Il va la faire tomber,
ouais.
Et après, comme ça, il va la voir.
C'est le cas de la pièce.
Ouais.
Ah oui. Bravo. Oui, c'est ça.
Trop facile. Donc, Amar Rabbi Yitzhak, bon, mais ceci dit, c'est pas le même cas. Hein. Ça t'a peut-être fait penser à quelque chose, mais c'est pas le même cas. Amar Rabbi Yitzhak, Migdela. C'est où chez Asmik et Miguel?
C'est ta réponse que tu cherchais depuis quelques temps. Elle est lourde. T'as enfin ta réponse?
Je finis avec ça. Il nous dit à condition que les pièces sont posées en forme de tour. Ça veut dire que quand on parle de trois pièces qui sont posées l'une sur l'autre, on parle de trois pièces qui sont posées sous forme de tour. Tanya Nami Achi. On a enseigné aussi une autre variété qui confirme notre analyse de l'analyse de Rabbi Yitzhak de la Mishnah. Il dit Matsamaot Mefuzarot. La Braïta dit comme ça. Si on a trouvé des pièces qui sont éparpillées, Arelouchelo, ils sont à lui. Mais Asuim Kemigdalim, si les pièces étaient posées, donc là on n'a pas donné le nombre 3, hein, vous avez remarqué déjà, on se renverra après. Si il a trouvé des pièces qui étaient Asuim Kemigdalim, qui étaient posées en forme de tour, Chayavle Achi, ils ont l'obligation de proclamer. Et écoutez bien ce que dit la Braïta, Elouen Asuim Kemigdalim, voici ce qu'on considère des pièces qui sont posées en forme de tour, Shlosha Matbein, Zeal Gavze, trois pièces posées l'une sur l'autre. Donc là c'est clair, la Braïta, il n'y a pas d'équivoque, c'est clair, c'est évident, ça confirme ce que Rabbi Yitzhak a dit, que quand on parle de trois pièces qui sont posées le quand on parle pardon de trois pièces qui sont posées l'une sur l'autre, on parle de trois pièces qui sont posées en forme de tour. On verra la semaine prochaine, d'accord, que la Gemara va expliquer que c'est pas du tout si simple. C'est pas ce que Rabbi Yitzhak a dit, c'est un grand ridouche. En vérité, non seulement que c'est pas simple ce qu'il a dit, mais normalement on devrait dire le contraire. Donc ça, Bezrat Hashem, on verra la semaine prochaine.
Et quand tu sais, c'est appuyé à moitié, c'est tombé comme ça un petit peu.